Nous poursuivons donc la lecture des Actes des Apôtres. Donc c'est la suite d'hier où il s'agissait d'avoir l'avis des apôtres sur la question de ce qu'on imposait aux païens. Alors d'abord, j'espère que vous avez lu les textes en vous réveillant. Et d'autre part, première prise de conscience, ça parle de nous. Sauf si vous êtes né juif, ce qui est possible. Mais si ça n'est pas le cas, ce n'est pas mon cas, ben ça parle de nous. Et en fait, c'est nous les nations, c'est nous qui étions des païens, qui ne sommes pas nés dans la race des Hébreux, qui n'avons pas connu tout ça. Donc ça parle de nous quand même, hein. C'est bouleversant parce que ce texte s'accomplit encore aujourd'hui. Hein, c'est pas un texte du passé, l'Écriture sainte, c'est pas du passé, ça s'accomplit aujourd'hui. Alors certains textes, c'est plus difficile, je reconnais. Il y a des textes qui sont vraiment historiques. Bon, on a parfois du mal à voir de quelle manière ils s'accomplissent au moment où on les lit, mais c'est pourtant la réalité et la vérité surtout. Donc, nous entendons Pierre raconter qu'il est celui qui a évangélisé les païens. Voilà, c'est d'ailleurs ce que fait Léon XIV, qu'on pourrait appeler Léon Pierre. Il y avait Simon Pierre à l'origine, ben maintenant c'est Léon Pierre. Pierre nous dit qu'il a purifié nos cœurs par la foi. Est-ce que nous avons conscience que notre cœur est purifié par notre foi et que notre absence de foi, si c'est le cas, empêche la complète purification de notre cœur? Vous voyez, c'est déjà une implication de la foi qui est assez impressionnante, hein. Et Dieu ne fait aucune distinction, pas d'acception entre les hommes. Il y a celui qui consent à le recevoir de plus en plus et qui porte un fruit et qui vit de la présence de Dieu. Puis il y a ceux qui le refusent, ceux qui ne le connaissent pas. Mais Dieu ne fait pas exception. Pierre affirme que c'est par la grâce de Jésus que nous sommes sauvés et pas par la loi. Par la mort d'un seul. Voilà. Donc ça, évidemment, pour nous, ça peut nous parler, puisque nous ne sommes précisément pas concernés par la loi des Hébreux. Mais... Alors, on voit, ce texte est aussi un modèle de discernement. Pierre dit quelque chose d'historique, voilà ce qui s'est passé. Donc c'est l'actualité, en fait, hein. C'est très récent. Ensuite, on écoute... j'allais dire l'explicitation ou le développement encore de ça avec Barnabé et Paul. Vous voyez, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de remue-ménage, on n'est pas à l'Assemblée nationale. On écoute. Et puis ensuite, c'est Jacques. Jacques, c'est le frère de Pierre. Non, c'est André. Jacques, c'est le frère de Jean. Donc, Jacques... prend la parole et lui, il évoque l'Écriture sainte. C'est tout à fait intéressant, hein, comme développement. Le premier mouvement, c'est voilà ce qui s'est passé, confirmé par Paul et Barnabé les actions de Dieu. Et puis, retour à l'Écriture sainte. Autrement dit, ce qui est tout à fait fascinant dans cette affaire-là, c'est qu'en fait, ils vivent de l'Écriture sainte. C'est exactement ce à quoi je vous invitais hier, dans la Lectio Divina, avec Chen Chini, ce livre qu'il a écrit, Vivre de la parole. Est-ce que nous vivons de la parole? Vous voyez, cette parole qui est citée par Jacques, elle s'actualise à la fin du discours. Donc la parole de Dieu s'actualise et pourtant elle a été dite des siècles avant. Ce qui montre que pour nous c'est pareil. Et donc Jacques donne son avis. Il dit voilà, on va leur dire d'éviter les souillures avec les idoles, les unions illégitimes et le sang. Alors, trois demandes. Les idoles, ça s'oppose au culte de Dieu, qui est Père. Les unions illégitimes, l'inverse d'une union illégitime, c'est la fidélité humaine. Le fidèle, c'est le nom du Christ. Il est le fidèle, c'est un de ses noms. Et le sang, vous savez pourquoi est-ce qu'on ne devait pas manger le sang des bêtes? C'est là où il faut connaître un peu l'Écriture sainte. C'est vraiment pas méchant là, hein, vous pouvez quand même le savoir. Mais dans le Lévitique, si je ne m'abuse, Dieu dit « Vous ne mangerez pas le sang des animaux parce que dans le sang, il y a l'âme, c'est-à-dire la vie en fait, c'est ce qu'on veut dire. C'est pas l'âme au sens où nous l'entendons, nous, qui est dans le sang, pour les Hébreux, mais c'est la vie. Donc c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint, en fait, qui sont, que je vois, moi, personnellement, à travers ces trois demandes. Les idoles, ça s'oppose à Dieu, qui est notre Père. Les unions illégitimes, ça s'oppose à la fidélité du Christ. Et le sang, répandre le sang, ça s'oppose à la vie de l'Esprit. Alors ensuite, il ne faut pas tirer ça, voilà, ça a évolué depuis, hein, puisque la question du sang n'est plus retenue aujourd'hui. Les deux autres le sont par contre, bien sûr. Et alors, il y a, en français en tout cas, ce truc un peu bizarre, moi je trouve personnellement, je ne sais pas comment vous comprenez, peut-être moi qui ai l'esprit un peu bizarre. « Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi. » C'est quoi le rapport avec ce qui a été dit au-dessus? Bon, je n'ai pas trouvé ni cherché, enfin si j'ai cherché un tout petit peu, mais je n'ai pas trouvé d'explication. Néanmoins, on ne peut pas tout expliquer, puis ça laisse de la place hein, pour d'autres commentaires. Donc, alors, dans ces trois demandes, personnellement, je trouve un écho à l'Évangile. Donc Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » C'est un évangile assez bref. L'amour de Jésus, c'est son Père. Dans l'expression, on pourrait employer l'expression française un peu moderne, c'est l'amour de sa vie. Son Père est l'amour de sa vie. Et c'est ce qui fait sa joie. La joie de Jésus, c'est d'aimer son Père, c'est d'être dans l'amour du Père. Et alors pourquoi il nous souhaite cela? Parce qu'on peut dire, d'accord, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ok, d'accord, bon. Et pourquoi notre joie serait parfaite si on fait ça? C'est quand même intéressant, vous voyez, de se dire pourquoi Jésus nous dit ça? Pourquoi il tient à ce que nous connaissions cette joie-là? Parce qu'il n'y en a pas de plus grande. Et parce que cette joie-là, elle nous libère. Elle est notre résurrection. Elle nous libère de tout ce qui nous retient, de tout le respect humain, de toutes les questions d'image, de toutes les idoles que nous aurions voulu aimer, jusqu'à son ordinateur, son iPhone, son... son petit jeu au loto, son petit jeu, j'en sais rien, moi, tous ces petits trucs-là, hein, le fait d'anticiper, de ne rien manquer, de... Voilà, tout ce qui nous détourne du seul souci qui donne la joie, qui est « mon Père est là ». Et... Donc je disais, l'amour de Jésus, c'est le Père. L'amour, c'est l'Esprit Saint. Jésus, c'est le Fils. Le Père, c'est le Père. Vous avez la Trinité qui est là. La joie parfaite, c'est l'amour du Père en soi. La joie parfaite pour chacun de nous, c'est l'amour de notre Père en chacun de nous. Savoir que nous avons le Père à demeure qui nous aime parce que nous gardons la parole du Fils. Et que le Fils, dès lors que nous gardons la parole du Fils, il y a forcément aussi le Père et l'Esprit. Et par contre, il nous arrive, c'est peut-être ça au fond, c'est une des manières de parler du péché, de ne pas tenir compte du Père. Vous avez remarqué que le Père se tait quand on fait n'importe quoi. Allez regarder la première catéchèse du pape Léon au Vatican, donc hier, où il a employé la parabole du semeur. Prenez la traduction française, hein, ils mettent un peu de temps sur le site du Vatican à la mettre en ligne. Néanmoins, vous la trouverez quand même. Et au fond, il dit... Le pape dit que cette manière de semer, qui est très très bizarre, hein, jusque dans le chemin, les ronces, etc., nous montre que Dieu nous aime indépendamment de ce que nous faisons ou pas. Et l'amour de Dieu est premier, c'est parce que c'est de découvrir l'amour de Dieu qui peut nous permettre une vraie conversion. Beaucoup plus, et je pèse mes mots, hein, c'est un peu délicat ce que je vais dire, beaucoup plus que le regret de nos imperfections. Je m'explique. Nos imperfections peuvent être des tâches à nos yeux, j'insiste. Et à ce moment-là, c'est un peu de l'orgueil déguisé, quoi. Vous voyez ? Alors que l'amour de Dieu nous fait voir qu'il a tout donné et qu'on doit tout donner. Et c'est une manière de nourrir en nous le désir de Dieu qui est beaucoup plus élevé que le fait d'éviter ou de s'examiner pour voir si on a coché les cases. C'est vulgaire un peu ce que je dis. Hein. Et chacun en est là où il en est et il faut aussi savoir regarder ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait, enfin surtout ce qu'on fait de mal quand on vient de se confesser. C'est pas trop pour se vanter, comme disait l'autre. Mais donc voilà, c'est vraiment important. L'amour de Dieu est une source de joie, et c'est pour ça que Jésus nous y invite. Donc l'amour de Dieu en nous nous fait prendre conscience que nous n'y sommes peut-être pas fidèles, mais surtout nous fait prendre conscience que cet amour est immérité, inconditionnel. Et cette expérience de l'amour de Dieu et de son silence devant nos trahisons, un jour ou l'autre, nous permet de nous corriger de l'intérieur et de pouvoir nous dire, voilà, il faut que je corresponde. Il faut que je corresponde à cet amour invraisemblable, quoi. Je ne peux pas continuer comme ça à me moquer de l'amour de Dieu. C'est sévère, hein, ce que je dis, hein. Je le dis d'abord pour moi. Hein. Mais voilà, l'amour de Jésus, c'est le Père et c'est la joie parfaite. Et une fois qu'on a expérimenté cela, on désire l'expérimenter de plus en plus. Alors on se désole évidemment de ne pas y être fidèle, et puis par moments on se réjouit de voir l'œuvre de Dieu, et puis on se redésole, et puis bon, c'est la vie chrétienne, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ce qui est important, c'est que cette joie, rien ne nous l'enlève, même pas, j'allais dire, nos péchés. C'est-à-dire que quand nous commettons un péché, nous avons toujours la possibilité immédiatement de demander pardon au Seigneur, et il est là, derrière la porte, en disant pourvu qu'il revienne, quoi que nous ayons fait. Hein, la miséricorde est sans borne, elle est éternelle. Il faut avoir ça bien présent à l'esprit. Voilà, alors soyons dans cette joie extraordinaire de cet amour du Père pour nous, qui est en nous, qui reste parfois silencieux quand nous ne le laissons pas parler ou quand nous ne savons pas écouter l'Esprit qui nous transmet sa parole. Sa parole, c'est Jésus.